Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 24 novembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Le nom de l'homme dont on va parler aujourd'hui a déjà été mentionné plusieurs fois dans La Loupe. La première, c'était il y a un peu plus d'un an, dans un épisode consacré à l'influence russe en Afrique et à la milice Wagner.
C'est un groupe de mercenaires proches du pouvoir russe, dans le sens où il est sous le contrôle d'un homme dont le nom défraie de plus en plus la chronique depuis quelques années maintenant, Yevgeny Prigojine. Yevgeny Prigojine, donc, c'est un homme proche du Kremlin qui a fait fortune dans les services de restauration rapide, en fait, dans les années 90, et qui s'est peu à peu rapproché des cercles proches, en fait, de Vladimir Poutine.
Emmanuel Dreyfus, expert de la Russie à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, nous avait alors expliqué qu'Evgeny Prigojine était ce qu'on appelle un entrepreneur d'influence, un homme d'affaires qui met sa fortune et ses réseaux au service des intérêts du Kremlin. Mais il nous avait aussi dit que l'homme niait ce rôle et se défendait de tout lien avec la milice Wagner. Si je vous reparle de lui aujourd'hui, c'est que depuis cet épisode, il a totalement changé de dimension. Il assume désormais ouvertement son rôle de chef des mercenaires qui se battent en première ligne en Ukraine. Il revendique les actions de désinformation à l'étranger au profit de la Russie. Bref, il ne se cache plus. Evgeny Prigojine est devenu un puissant homme public et une pièce maîtresse de la guerre de Moscou contre Kiev. Surnommé le cuisinier de Poutine parce qu'il a commencé en fournissant les repas aux banquiers du Kremlin, Evgeny Prigojine n'en finit plus de grimper les échelons du pouvoir russe. Où s'arrêtera-t-il ? C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Pour raconter l'ascension et les ambitions d'Evgeny Prigojine, j'ai fait appel à un journaliste qui connaît parfaitement la Russie et ses jeux de pouvoir, Léo Vidal-Giraud. Salut Léo.
Salut Xavier.
Léo, je précise que tu étais correspondant de l'Express à Moscou jusqu'à il y a quelques mois et que tu as vécu en Russie ces 15 dernières années.
Exactement, en fait, pratiquement toute ma vie d'adulte et d'une certaine manière, je pense que je peux dire que je connais mieux la Russie que la France.
Et tu as dû quitter Moscou juste après l'invasion de l'Ukraine, mais tu continues à couvrir l'actualité russe à distance et tu viens de signer pour l'Express une grande enquête sur Evgeny Prigojine. Alors le personnage est inquiétant, j'ai commencé à esquisser son portrait en introduction. J'imagine que ça n'a pas été facile de trouver des sources pour parler de lui.
Non, ça a même été assez compliqué. En fait, la plupart du temps, les sources auxquelles je m'adresse régulièrement pour toutes les enquêtes sur, on va dire, les coulisses du Kremlin, sur le pouvoir en Russie, beaucoup de ces gens ont refusé de me parler en me répondant « oui, c'est très intéressant, mais sans moi ». Voilà, donc j'ai dû promettre l'anonymat beaucoup, utiliser donc des messageries cryptées. On a pas mal parlé sur Signal, parce que Telegram a la réputation d'être infiltré par les services russes. C'est-à-dire, ce type fait peur. Déjà, même physiquement, hein, ça se voit que c'est pas un rigolo, entre guillemets. Il a ce physique de par un mafieux, il a le crâne rasé, il a l'œil inquiétant. Et puis, c'est une réputation aussi qui s'est construite, à laquelle il a travaillé, celle de quelqu'un qui est prêt à tout, qui est vraiment une personne dangereuse. Encore récemment, là, on a vu cette vidéo d'un déserteur de Wagner qui avait été repris par ses anciens camarades et qui se fait massacrer, hein, littéralement, exploser le crâne à coups de masse de chantier, face caméra, filmé, donc partagé par des officiers ou des personnes liées proches de Wagner et commenté, encouragé par Prigojine.
Tu parles de parrain mafieux, Léo, mais c'est pas juste une formule. En préparant ce podcast, tu m'as appris qu'au départ, Evgeny Prigojine est un repris de justice.
Exactement, il dans les années 80 à l'époque soviétique, donc lui au départ c'est un gangster de Leningrad, donc la future Saint-Pétersbourg, qui a été condamné à plus d'une dizaine d'années de prison, si je ne me trompe pas, à l'époque soviétique, pour vol, pour banditisme, pour incitation à la prostitution de mineurs, et finalement donc il est sorti en 90, au bout de 9 ans, à l'effondrement de l'URSS. Et donc une fois sorti de prison, dans sa ville d'origine qui est devenue Saint-Pétersbourg, il se lance ce qu'on appelle à l'époque dans les années 90 en Russie, hein, donc dans ce Far West capitaliste qui vient d'apparaître, il se lance dans le business, ce qui peut vouloir plus ou moins tout dire, et n'exclut absolument pas des activités criminelles d'ailleurs. Lui en l'occurrence, il va d'abord vendre des hot dogs, avec un stand, et puis un réseau, et puis ensuite des magasins d'alimentation. Et puis ensuite, il se lance donc dans la restauration. Il ouvre des restaurants, il monte en gamme, et il ouvre un restaurant de luxe, et puis plusieurs restaurants de luxe. Et c'est dans l'un d'entre eux qu'il finit par rencontrer Vladimir Poutine. C'est en 2001. Donc en 2001, Jacques Chirac est en visite officielle en Russie. Et avec Vladimir Poutine, donc on rappelle qu'ils s'entendent très bien, les deux chefs d'État à l'époque, il se déplace donc à Saint-Pétersbourg, et s'arrête donc dans le restaurant de Prigojine, qui est à l'époque the place to be, à Peter, comme on dit en Russie, à Saint-Pét. Et la légende que Prigojine entretient et raconte lui-même, c'est que, voyant là sa chance, son heure venue, il va les servir lui-même, passer lui-même les plats, faire le service et se faire remarquer.
C'est à partir de ce moment-là que Prigojine se met au service de Poutine.
Voilà, exactement. En fait, c'est à ça qu'on peut dater le début de son ascension, réellement. On raconte aussi que, il met l'ambiance, il fait des blagues, il met ses invités à l'aise, il discute, il est là. Enfin bref, il crée un moment sympa pour le président et ses invités. Et donc, peu à peu, on va refaire appel à lui pour organiser des banquets, pour faire le traiteur, pour l'anniversaire de Poutine, pour la prise de fonction de Medvedev en 2012, par exemple. Et puis, il finit donc par passer même à la restauration collective. Et il a cette société qui s'appelle Concord Catering, qui va recevoir des énormes contrats publics pour nourrir toutes les écoles, pour nourrir les ministères, pour nourrir l'armée, et c'est là vraiment qu'il devient milliardaire grâce à ses contrats publics. C'est vraiment le schéma extrêmement classique d'enrichissement de l'entourage de Poutine depuis le début, en fait. C'est faire le fournisseur de l'État et surfacturer scandaleusement, et avec ça, donc, il va devenir milliardaire.
C'est donc de cette époque que date son surnom de cuisinier de Poutine que j'ai mentionné en introduction.
Exactement, c'est un surnom qui lui colle à la peau et qui est assez paradoxal en fait, mais enfin, je pense qu'il n'a jamais touché une casserole, mais qui est révélateur parce que d'une certaine manière ça montre aussi son statut en fait. Prigojine, c'est pas un ami de Poutine, c'est pas un oligarque, c'est pas ce qu'on appellerait un proche vraiment. Prigojine, c'est l'ami des larbins de Poutine. D'ailleurs, pour l'anecdote aussi, en 2001, donc quand il rencontre Poutine, c'est pas Poutine qu'il rencontre en vrai, c'est ses serviteurs. Il devient copain avec son chauffeur d'abord. Et puis ensuite, il prend langue avec son chef de la sécurité, un certain Viktor Zolotov, qui pour l'anecdote est aujourd'hui devenu général de la garde nationale russe, ce qui montre que décidément, l'ascension peut se faire très très vite dans ces milieux-là. Et donc en fait, il entre dans le cercle des prestataires de services de Poutine, des gens auxquels on peut confier un job et qui vont le faire. Voilà, on lui dit organise une fête, il organise une fête. On lui dit nourrit les écoles, il nourrit les écoles. Qui se sucre au passage, Poutine le sait sans doute, est-ce qu'il donne son accord, est-ce qu'il le donne pas, enfin, il s'en fiche complètement, c'est pas son problème. Il est efficace, on lui donne une mission, il l'accomplit. Et c'est pour ça qu'on finit par lui confier d'autres missions, et c'est là en fait qu'on va arriver au cœur de métier actuel, la désinformation, les usines à trolls, et les mercenaires. Et c'est vraiment le même principe que la restauration, c'est-à-dire que c'est un prestataire de service.
Et à quel moment le nom de Prigojine commence-t-il à déborder de ce cercle de prestataires de services de Poutine ?
Le moment de bascule, du moins le moment où le monde apprend le nom de Prigojine, en fait, c'est l'année 2017. Donc on est quelques mois après l'élection de Donald Trump en 2016, il vient de prendre ses fonctions de président, et les démocrates se plaignent ouvertement d'interférences russes, donc il y a des enquêtes qui sont menées, et on découvre ce nom, l'IRA, l'Internet Research Agency, plus connu ensuite sous le nom de l'usine à trolls, qui est en fait une entreprise à Saint-Pétersbourg, qui organise cette interférence dans l'élection américaine de 2016 via principalement de la désinformation sur les réseaux sociaux. Et là, on découvre donc que cette entreprise appartient à Yevgeny Prigojine, et c'est là qu'on entend parler de lui vraiment pour la première fois.
13 Russes, tous inculpés vendredi par la justice américaine pour ingérence dans les élections. Parmi eux, un proche de Vladimir Poutine, Yevgeny Prigojine.
Ils ont créé des pages et des groupes de médias sociaux pour communiquer avec des Américains.
Tous sont accusés de complot en vue de tromper les États-Unis.
Le deuxième moment de bascule, c'est le groupe Wagner qu'on voit apparaître en Ukraine, d'abord en 2014, mais de façon très discrète, et puis qui prend de plus en plus d'ampleur dans les opérations russes à l'étranger, donc en Syrie, en Libye, et puis en Afrique, beaucoup. Et puis tu as ensuite donc l'invasion en février 2022, et là Prigojine va complètement changer d'échelle.
À quel point?
Il change d'échelle de façon considérable, parce que Wagner, avant la guerre, donc c'est une société militaire privée, mais ça n'est pas une armée. On va parler de quelques centaines, quelques milliers de personnes, des anciens des forces spéciales, des anciens de l'armée russe, mais des gens qui sont déployés donc soit pour protéger des sites sensibles, par exemple des puits de pétrole ou des gisements de gaz, qui vont être des instructeurs, qui vont être envoyés en Afrique, mais c'est pas une armée, en tout cas. Alors qu'aujourd'hui, donc, et à la faveur de la guerre en Ukraine, c'est devenu une vraie armée. Wagner, en Ukraine, c'est entre 5 et 10 000 hommes, peut-être plus. C'est une armée qui a ses propres tanks, qui a ses propres artilleries, qui a ses propres hélicoptères et qui aurait même quelques avions.
Et quel rôle joue cette armée privée sur le front ukrainien?
En tout cas, déjà, elle a un rôle qui, médiatiquement, est peut-être même hors de proportion avec sa réelle importance tactique, parce que, bon, finalement, 10 000 hommes sur l'intégralité du dispositif russe, ça n'est pas énorme. Mais d'un autre côté, ces 10 000 hommes qui sont déployés sur le secteur le plus dur de la guerre, donc c'est le front de Bakhmout. Bakhmout, donc, pour qu'on comprenne bien, c'est une ville qui est juste en face de Donetsk, donc qui est la capitale des séparatistes. C'est donc un endroit où le front est gelé depuis 2014. Donc c'est extrêmement fortifié, c'est un enfer de champs de mines, de tranchées, de postes de défense. C'était sans doute le pire endroit du front où attaquer. Et donc c'est là qu'on envoie Wagner et ses mercenaires. Et paradoxalement, et ben c'est l'un des seuls endroits où les Russes ne se sont pas couverts de ridicule. La seule région où l'armée russe avance, c'est le front de Bakhmout. Ce que le public russe voit, c'est que les Wagner, c'est le seul qui avance.
Donc l'ancien gangster, devenu restaurateur puis patron de la PME Wagner, s'est mué en chef de guerre à la faveur de l'invasion de l'Ukraine. Et il est également passé de l'ombre à la lumière.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bah Xavier, je t'ai envoyé par mail une petite vidéo. Est-ce que tu pourrais l'annoncer, s'il te plaît?
Oui, alors attends, que je la retrouve. Voilà. Nos auditeurs ont peut-être vu passer cette vidéo en septembre dernier. C'est celle où on voit Prigojine en train de recruter des mercenaires parmi les détenus réunis dans la cour d'une prison russe. Elle a été beaucoup reprise sur Internet et dans les journaux télévisés.
Oui, exactement. Si cette vidéo a fait autant de bruit, bah c'était parce que c'était la première fois en fait que Prigojine apparaissait au grand jour en tant que patron de Wagner. Et je te propose qu'on la revoie ensemble parce qu'elle permet de bien saisir ce nouveau Prigojine. C'est un Prigojine qui non seulement va sortir de l'ombre, mais qui en plus va s'inventer un style, va s'inventer un genre, parce que quand tu l'écoutes parler, c'est vraiment un mélange du parrain, donc c'est sa personnalité de mafieux dont je te parlais tout à l'heure, et puis il ajoute une corde à son arc entre guillemets. Il se croit dans les 12 salopards. Tiens, par exemple, avance un peu, je vais te traduire un extrait. Vous connaissez quelqu'un d'autre qui peut vous sortir de la zone au bout d'à peine un dixième de votre peine? Les seuls qui font ça, c'est Allah et ses dieux, et c'est dans une boîte de bois. Moi, je vous sors d'ici vivant, mais je vous ramène pas toujours vivant. Des questions? Ou bien c'est clair? Bon, là, je vous laisse 5 minutes pour réfléchir. Tu vois, chacune de ces phrases, en fait, elle sort d'un film hollywoodien. Quand il nous dit « ceux qui reculent et qui ne savent pas ce qu'ils font là, c'est qu'ils vont se faire broyer », quand il dit « interdiction d'avoir des contacts sexuels avec les femmes, la faune, la flore, les hommes, avec ce que vous voulez », il est dans une réplique de film. Et en fait, ce type, il nous donne de l'archétype hollywoodien. Et ça, c'est quelque chose qui accroche dans la communication moderne. Un peu comme les Ukrainiens, d'ailleurs, qui, avec leur communication de guerre, nous jouent Star Wars et incarnent les rebelles qui affrontent comme ça cette armée innombrable d'ennemis incapables. Lui, il nous joue l'officier dur à cuire du film de guerre hollywoodien standard, façon les 12 salopards, façon Predator, avec ce type qui va chercher les pires des pires dans une prison et leur promet l'enfer et la rédemption. C'est un classique. Et finalement, ça marche même avec les Russes, ça, parce que les films hollywoodiens, ils les connaissent aussi. Et du coup, c'est un ethos derrière, parce que les gens qui font ça dans ces films, les officiers qui font ça, ces personnages, bah, c'est pas des nuls. C'est le chef dur à cuire, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est un vrai, c'est un vétéran, alors que Prigojine n'a jamais été militaire de sa vie, hein, donc aussi bien il y connaît rien, mais en tout cas il donne cette impression, et d'un seul coup on l'entend parler, on se dit ce type sait ce que c'est faire la guerre, en fait. Donc il crée vraiment ce personnage public, et puis on voit qu'il y prend goût.
Et pourtant Léo, on a expliqué que Prigojine tenait absolument à rester dans l'arrière-cuisine du pouvoir. Comment la transition s'est-elle faite?
Ce qui est le plus probable, en fait, c'est qu'il a été traîné dans la lumière par le fait que ses activités se voyaient de plus en plus, et que finalement, il y a pris goût. Parce qu'en fait, au tout début, il faut effectivement voir que Prigojine, il veut absolument pas qu'on parle de lui. C'est quelqu'un qui aime l'ombre, d'ailleurs, en Russie. Un proverbe russe, «Деньги любят тишину». L'argent aime le silence. Et ça nous parle de Prigogine, ça, c'est exactement lui. Et quand tu vois les premières enquêtes qui sont faites sur lui, donc à partir de 2016-2017, justement, donc à l'époque où on commence à s'intéresser à lui, sa réaction au début est extrêmement négative. Les journalistes russes qui essayent de parler de lui sont menacés. Quand Navalny fait des enquêtes sur lui, parce qu'il en a fait plusieurs à l'époque, il le traîne au tribunal, il l'assigne en diffamation, et en fait, peu à peu, il va se mettre à assumer son rôle, puisque jusqu'à très récemment, donc jusqu'en septembre, il continue de nier que Wagner c'est lui, mais il le nie de moins en moins activement, en fait. Déjà, il se met à répondre plus régulièrement, et puis il se met, au lieu de juste nier en bloc, de dire « j'ai rien à voir avec ça », de dire « j'ai rien à voir avec ça, mais celui qui s'en occupe doit être très compétent ». Donc ça devenait de plus en plus transparent, jusqu'au moment où il a fini par arrêter complètement de nier, et dans une interview, il raconte comment il a créé Wagner. Donc à ce moment-là, les masques sont officiellement tombés.
Prigogine qui finit par raconter la création de Wagner. Et comment il s'exprime, Léo ? Il donne des interviews à des journalistes ? Il fait des vidéos comme celle dont on vient de parler ?
Alors en fait, il faut voir qu'il y a très très peu de vidéos de lui, par exemple. Prigogine, c'est quelqu'un qui donne pas d'interviews classiques, face caméra à des journalistes. Et ce qui est assez intéressant pour quelqu'un qui maîtrise à ce point la communication, il est absent des réseaux sociaux à titre personnel. Il n'a pas de compte Telegram, alors qu'en Russie, c'est pratiquement un must-have pour quelqu'un qui veut peser médiatiquement et politiquement. En fait, il s'exprime par sa société de restauration, donc Concord Catering, et via son service de presse, qui a donc une page sur le réseau social russe VK, c'est le Facebook russe comme on l'appelle, régulièrement sur la page VK de Concord, ils vont publier des questions de journalistes, et la réponse de Prigogine, qui est en général assez longue, et dans laquelle donc il distille ses messages. Voilà, donc c'est par exemple comme ça que il a reconnu sa responsabilité dans les ingérences russes dans l'élection américaine. C'était le 7 novembre, quand interpellé là-dessus par un journaliste qui lui demande « Est-ce que vous vous êtes ingéré dans l'élection de 2016 et est-ce que vous allez le faire dans les élections de mi-mandat américaine ?» Il répond « Nous sommes ingérés dans cette élection, nous continuons de nous ingérer et on va continuer de le faire. »
Ah oui, donc non seulement l'ingérence est revendiquée, mais en plus Prigogine dit qu'il va continuer.
Voilà, il, là en fait maintenant il se cache plus du tout et c'est quelqu'un qui est certain de son statut, qui assume totalement, qui est sorti du bois. Et d'ailleurs, illustration de ça, sans doute, il a même fait construire une tour Wagner à Saint-Pétersbourg qu'il a inaugurée début novembre.
Un immeuble imposant, un hall aux allures futuristes, des bureaux spacieux. Voici le nouveau QG luxueux du groupe paramilitaire russe Wagner.
Ce dont il faut quand même se souvenir, c'est que le mercenariat, officiellement, c'est interdit, selon la loi russe. Donc, qu'il aille inaugurer une tour au nom d'une société militaire privée, ça montre vraiment à quel point il se sent tout permis.
On a bien compris l'envergure désormais assumée d'Evgeny Prigogine dans le paysage politique en Russie. Il est temps de se demander si le cuisinier de Poutine n'est pas en train de s'inviter à la table des successeurs potentiels du président russe. À la loupe, on a consacré beaucoup d'épisodes à Vladimir Poutine, à son parcours, à sa personnalité, et on connaît sa volonté de contrôle absolu. D'où ma question, Léo, pourquoi laisse-t-il Evgeny Prigogine devenir aussi puissant ?
Alors, une source, quelqu'un qui connaît bien les coulisses du pouvoir, en fait, l'avait formulé comme ça. Il le fait parce que Poutine le laisse faire, et Poutine le laisse faire parce qu'il lui rend des services immenses sur le front ukrainien. Mais il faut bien comprendre qu'en faisant ça, et avec cette nouvelle envergure, il se fait aussi beaucoup d'ennemis. Il agace beaucoup dans la galaxie poutinienne, Prigogine, parce que les vrais proches de Poutine, ce sont des anciens du KGB. Poutine lui-même est un ancien du KGB, et c'est ce qu'on appelle les siloviki en Russie. Donc les siloviki, qui est une expression un peu difficile à traduire, mais qui vient de sila, la force, donc les gens, les hommes des forces, en fait, littéralement. Des fois, on le traduit par les hommes à épaulettes, les hommes en uniforme, donc c'est des gens qui viennent de la police, c'est des gens qui viennent de l'armée, c'est des gens qui vont venir des services de renseignement, évidemment. Et pour ces gens-là, Prigogine, non seulement il est pas des leurs, mais en plus, il vient de l'ennemi, c'est un ancien tolard. Eux, c'est les gendarmes, et lui, c'est le voleur. Donc c'est un intrus. Cette origine aussi, ça le rend vulnérable. Donc c'est ça, en fait, l'enjeu de sa montée en puissance, c'est qu'il essaye de s'institutionnaliser, en fait. Il essaye de devenir une tour du Kremlin.
Il essaye de devenir une tour du Kremlin ? Qu'est-ce que tu entends par là, Léo ?
Alors ça, c'est une expression de politologue russe ou de kremlinologue, comme on dit là-bas. Tu vois le Kremlin avec toutes ses tours, donc puisque le Kremlin, c'est cette enceinte fortifiée avec une quinzaine de tours. Voilà, c'est une image iconique. C'est une expression, donc en politique, on dit le Kremlin a plusieurs tours. Ce qui signifie que ce pouvoir a plusieurs têtes. Et être une tour du Kremlin, ça signifie être suffisamment important pour être réellement intouchable. Et Prigogine, aujourd'hui, ça n'est pas une tour du Kremlin, il n'a pas d'espèce de totem d'invulnérabilité. Du jour au lendemain, si un jour il cesse d'être utile, ou s'il énerve trop quelqu'un de plus puissant que lui, on le retrouvera dans la Moscova avec des poids attachés aux pieds. C'est sûr. Et il en est forcément conscient. J'avais un autre expert auquel j'avais parlé qui utilisait l'expression « il joue tapis » à chaque fois. Il faut l'imaginer comme un joueur de poker qui joue tout sur la table. Chaque fois, il gagne, et tant qu'il gagne, il joue, et tant qu'il gagne, il augmente la mise.
Si je comprends bien, Prigogine doit continuer d'étoffer son influence, mais est-ce qu'on sait dans quel but, quel est son objectif final ?
Alors ça, c'est vraiment le mystère. Personne n'est dans sa tête et c'est vraiment la question à un million à laquelle tout le monde aimerait avoir la réponse. On peut imaginer deux choses. D'une part, juste l'argent pour l'argent, le pouvoir pour le pouvoir, ce qui est pas impossible du tout. Il se peut qu'il soit lancé dans une fuite en avant dont il voit pas lui-même l'issue. Ou bien, est-ce que son objectif, justement, c'est d'être en fait admis chez les grands et de faire partie enfin du sérail, du vrai cercle du pouvoir en fait, et de sortir donc de ce rôle d'exécuteur de basses œuvres. Il y a un fantasme absolu en Russie, surtout depuis donc qu'il s'est révélé à la tête de Wagner et que Wagner est devenu une vraie armée privée. On fantasme beaucoup, on a peur aussi souvent d'un Prigojine qui ferait un coup d'état à la tête de son armée privée. C'est plus de la science-fiction d'après ce que me disent les gens qui s'y connaissent, parce qu'en fin de compte, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein, Wagner c'est 10 000 hommes. C'est pas avec ça que tu vas faire un coup d'état contre l'armée russe. C'est de la science-fiction à l'heure actuelle. Sauf peut-être éventuellement si on assistait à un effondrement total du système Poutine, avec pas juste Poutine qui perd le pouvoir, mais vraiment le système qui s'effondre totalement, la Russie qui éclate en des principautés, enfin vraiment le scénario libyen en fait, d'une certaine manière, une guerre de tous contre tous, de Kadyrov en Tchétchénie qui proclame son indépendance, de la garde nationale qui fait le coup de feu contre la police, contre l'armée, et dans ces conditions-là, évidemment, Prigojine avec son armée privée qui lui est loyale, il aurait un avantage considérable. Mais enfin, à l'heure actuelle, en tout cas, le plus probable, en fait, comme scénario de moyen ou de long terme, c'est que dans cet après-Poutine, en imaginant donc un après-Poutine qui soit quand même relativement contrôlé, dans ce cas, Prigojine, ça pourrait être le faiseur de roi.
Mais dans ce scénario contrôlé, pourquoi Prigojine lui-même ne pourrait pas prétendre à la succession de Poutine ?
Bah parce qu'il fait pas partie des candidats, en fait, il est pas invité à ce casting. Les élites vont jamais se rassembler autour de lui, à moins donc d'un effondrement complet, mais voilà, dans le cadre d'une succession qui serait organisée, il est pas invité à participer. En revanche, il pourra apporter énormément à l'un des candidats à la succession.
Bon, on pense évidemment à son armée privée, mais quoi d'autre ?
Eh ben en fait, avant tout, et peut-être même plus important que son armée privée, c'est sa machine d'influence, parce qu'il a donc son usine à troll, qui existe toujours, hein, c'est pas parce qu'on a arrêté d'en parler qu'elle n'existe plus, et puis il a aussi un empire, en fait, médiatique, réseaux sociaux, qui lui obéit, il a plusieurs médias qui lui appartiennent, qui sont à ses ordres, et il a aussi une nébuleuse de comptes sur les réseaux sociaux, qui en fait relaye ses sorties, relaye ses interventions. Un petit peu, alors le parallèle est un peu osé, mais un petit peu comme Elon Musk au sens où il a des fanboys, en fait. Il a des fans inconditionnels qui vont relayer sa communication sans qu'il ait besoin de leur demander quoi que ce soit. Et quand il lance la chasse à l'homme sur quelqu'un, ça peut devenir très violent. Justement, pendant les différentes retraites de l'armée russe, donc au fil de l'automne en particulier, il n'hésitait pas à tirer à boulet rouge sur le ministère de la Défense, à dire tout le mal qu'il pensait d'eux, à dire que les généraux étaient des incapables. Il avait même sorti à un moment « faudrait envoyer tous ces minables pieds nus au front avec un fusil ». Et des fois, il lance des chasses à l'homme nominatives. Il avait nommé le prédécesseur du général Sourovikine, donc le chef de l'opération militaire spéciale. Il l'avait traîné dans la boue, et ils ont fini par avoir sa tête. Et donc, cette énorme machine médiatique qu'il a, il peut la mettre au service de quelqu'un, et c'est vraiment un instrument très très puissant.
Donc, Prigojine peut apporter à la fois une force de frappe militaire et médiatique. Est-ce qu'il y a autre chose ?
Bah, il a justement ce dont je te parlais, il a sa popularité personnelle, cette aura qu'il a, et ça c'est très nouveau, puisque maintenant c'est un nom qui est reconnu, c'est une marque, c'est tout ce dont on parlait tout à l'heure, hein, donc cette espèce de personnage, de chef de guerre, de type compétent, de type dur à cuire, de type qui hésite pas à dire la vérité, il est devenu très très populaire avec ça. Dans les milieux nationalistes, les milieux militaristes, les gens qui se sont enthousiasmés au début de la guerre en Ukraine, et exaspérés ensuite devant les échecs répétés de l'armée russe, pour ces gens-là, Prigojine, c'est le messie.
Dans la perspective de l'après-Poutine, avec toutes ses cartes en main, sur quel personnage politique Evgeny Prigojine pourrait-il miser ?
Bah, c'est la grande question, c'est sûr, et on espère pour lui qu'il ne va pas se tromper, parce que sinon, effectivement, bah, il pourrait très mal finir. Ça pourrait être, par exemple, le chef du parti présidentiel, Andrei Tourtchak, qui est donc le président du parti Russie Unie. Ça pourrait être aussi le président du Parlement russe, Vyacheslav Volodin. Ça pourrait être l'ancien président Dmitri Medvedev, qui avait cette image de libéral un peu consensuel, un peu mou dans les années 2010, mais qui maintenant s'est forgé un rôle de porte-parole des faucons les plus nationalistes. On peut pas exclure non plus, d'ailleurs, que ce dont on discutait un peu tout à l'heure, qui décide de rouler pour lui-même, de tenter sa chance en solo. Mais enfin, là, l'une des personnes que j'avais interrogées pour préparer cette enquête me disait « Si c'est ça, c'est qu'il a été aveuglé par son hubris, c'est qu'il est complètement fou. »
La succession de Vladimir Poutine, on y reviendra dans un prochain épisode consacré à l'un des noms que tu viens de citer, Dimitri Medvedev. Merci Léo, à bientôt.
À bientôt.
Léo Vidal-Giraud, spécialiste de la Russie et ancien correspondant de l'Express à Moscou. Ton enquête complète sur Evgeny Prigojine ainsi que tous les articles de la rédaction sur la guerre en Ukraine sont à lire sur l'express.fr. Chers auditeurs, profitez-en, l'abonnement numérique est à 1 euro le premier mois en ce moment. Et pour retrouver tous les matins dès 6h un nouvel épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'hésitez pas non plus à nous mettre des étoiles, des commentaires et à nous recommander autour de vous. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.